Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue pour partager ensemble cette 11e leçon de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2009, la semaine donc du 6 au 12 juin. Et cette semaine, nous aurons pour thème, Bernard...
Eh bien, il s'agira de la gestion chrétienne.
Encore tout un programme.
Oui.
Nous avons pour verset à mémoriser dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, le verset 29.
On donnera à celui qui a... et il sera dans l'abondance. Et la pensée centrale ?
Comment est-ce que j'utilise les talents, le temps et les ressources matérielles dont Dieu m'a confié la gestion ? Comment est-ce que j'assume mes responsabilités envers mon Créateur et Rédempteur ? C'est tout cela, la gestion chrétienne de la vie.
La gestion chrétienne ne se limite pas à la gestion de nos ressources financières, ni à nous assurer que Dieu reçoit bien le 10% de nos revenus. Même si cela en fait partie, la gestion chrétienne inclut bien davantage.
Le terme anglais « steward », que nous traduisons par « gestionnaire chrétien », n'est pas correctement perçu par notre société actuelle. Il lui est même étranger. Nous ne possédons pas de vocabulaire adéquat ou équivalent pour traduire ce mot dans toute sa richesse. Le mot « gardien », par exemple, n'exprime pas les responsabilités du steward. Le mot « gérant » ne décrit pas adéquatement la relation entre le propriétaire et le gestionnaire chrétien.
« Administrateur » est un terme trop passif. L'agent, à notre époque, sert en priorité ses propres intérêts. « Ambassadeur » est un terme trop politique dont sont exclues les caractéristiques de serviteur. « Tuteur » est trop intimement lié aux seules responsabilités parentales. Eh bien, nous allons voir de quoi il s'agit dans le courant de cette semaine.
Commençons avec la journée du dimanche 7 juin.
Oui, et là nous allons parler des talents.
Si un concept profond et universel devait remporter un prix pour la meilleure des explications possibles, Jésus aurait facilement gagné avec la parabole des talents. Nous allons étudier quel message fondamental sur la gestion chrétienne Jésus nous communique dans l'évangile notamment de Matthieu, évangile au chapitre 25. Et nous commençons avec les versets 14 et 16.
Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Nous poursuivons, versets 17 à 19.
De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Versets 20 et 21.
Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous continuons versets 22 et 23.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » « Entre dans la joie de ton maître. » Versets 24 et 27 à présent.
« Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. » J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Et nous terminons ce texte maintenant, verset 28.
« Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. »
Nous avons tous des talents. Remarquons que, dans la parabole, tous les serviteurs reçoivent un ou plusieurs talents. Personne n'est laissé sans talent. Telle est la première vérité dont Jésus voulait que ses disciples prennent conscience. Ensuite, nous n'avons pas tous le même nombre de talents. C'est une réalité de la vie que nous devons accepter. Certaines personnes ont de multiples dons, alors que d'autres ne sont pas aussi douées. Ceux qui ont de nombreux talents ne devraient jamais mépriser ceux qui en ont moins. Jésus souligne clairement ce point. Ce n'est pas la quantité des talents qui importe, mais la façon dont nous les faisons fructifier.
Certaines personnes refusent d'utiliser leurs talents. Certaines ignorent leurs talents. Pour d'autres, personne, malheureusement, ne leur rappelle leurs dons. Ou alors, elles en sont conscientes, mais pour diverses raisons, refusent de dépenser de l'énergie pour les développer. Ne pas utiliser ses talents est chose grave. À l'esclave paresseux, il n'est pas donné de seconde chance, vous l'avez remarqué. Il est jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est une description symbolique du néant qu'est la mort éternelle.
Ne pas faire fructifier les talents que Dieu nous a confiés, non seulement nous affaiblit dans cette vie, mais met en péril nos chances de vivre éternellement. Cela signifie qu'être ou non un gestionnaire fidèle n'est pas une expérience à la périphérie de la vie chrétienne. C'est une caractéristique essentielle de la vie de disciple.
Et la méditation qui nous est proposée donc pour cette introduction est toute logique. Que faisons-nous donc de nos talents ? Les utilisons-nous uniquement pour nous-mêmes, pour combler nos désirs, ou les utilisons-nous également au service du Seigneur ? Cette question est vitale.
Nous continuons avec le lundi 8 juin 2009, cette étude sur les talents, et là il s'agira de...
Du temps.
Le temps. Il y a une pléthore de livres et de cours sur la gestion du temps. Ils ont aidé des millions de gens à mieux utiliser leur temps. De nombreux chrétiens feraient bien de lire quelques-uns de ces ouvrages, ou d'assister à un séminaire. Mais certains aspects de la gestion chrétienne ne s'apprennent qu'en lisant la Bible, notamment la vie de Jésus.
Que nous apprennent donc les évangiles sur la façon dont Jésus gérait son temps ? Prenons, comme à notre habitude, quelques textes et commençons par l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23.
Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Un autre texte, Marc, chapitre 1, verset 29 à 31.
En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta, elle se mit à les servir. Prenons à présent l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16.
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et un autre texte dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 et 2.
6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui.
Aujourd'hui, dans une société stressée, l'exemple de Jésus est aussi reconstituant que digne d'être imité. Jésus travaillait dur et s'est pleinement consacré à sa mission. Mais il veillait à ne pas passer à côté des bénédictions du sabbat. Les évangiles le montrent maintes et maintes fois, consacrant du temps à son père, à ses amis, à se relaxer, à un bon repas. Une telle gestion du temps est une bénédiction pour tous ceux qui la pratiquent.
La Bible ne fait nullement l'éloge des bourreaux de travail, pas plus qu'elle ne loue ceux qui prennent les choses à la légère. Comme toujours, il existe un équilibre. Accomplir ce qui doit l'être sans s'épuiser, ni émotionnellement, ni physiquement. Dieu est le premier à qui nous devons consacrer notre temps, ce que nous exprimons en observant le sabbat, en priant ou en l'adorant quotidiennement.
Nos bien-aimés méritent aussi qu'on leur consacre une bonne part de notre temps. Nous réservons ainsi du temps pour le travail, pour les loisirs et pour plein d'autres choses. L'Église mérite également que nous lui consacrions une part importante de notre temps. Mais il y aura toujours un équilibre à observer afin de ne pas tomber dans les extrêmes.
Et nous, de quel côté penchons-nous? En faisons-nous suffisamment ou en faisons-nous trop? Comment mener une vie plus équilibrée en ce qui concerne la gestion de notre temps? Voilà encore tout un sujet de réflexion.
Et ceci nous amène à la journée du mardi 9 juin 2009, et nous continuons cette étude en parlant aujourd'hui de...
Ça sera la gestion de notre corps.
De notre corps, oui. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent que leur corps leur appartient. Ils exercent sur lui un contrôle total. Beaucoup de femmes disent qu'elles sont libres de décider si elles vont ou non avorter. Hommes et femmes se sentent le droit de détruire leur corps en absorbant des substances souvent illégales, en mangeant de grandes quantités d'aliments de mauvaise qualité ou en ayant des relations sexuelles avec autant de partenaires qu'ils le veulent.
Nous allons à présent prendre un texte avec Bernard et voir dans ce texte, en le lisant dans un esprit de prière, ce que disent ces versets sur la façon dont nous devrions utiliser notre corps et comment concrètement mettre en œuvre ces paroles. Il s'agit de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20.
Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Le contexte immédiat indique que l'apôtre Paul se référait notamment à l'immoralité sexuelle. C'est malheureusement aussi actuel qu'aujourd'hui qu'à l'époque de l'antique Corinthe, ville connue pour ses pratiques perverses.
À la base, cependant, existe la notion selon laquelle on ne doit pas pécher contre son propre corps, 1 Corinthiens 6, 18, parce que celui-ci est un don de Dieu et ne nous appartient pas. Premièrement, Dieu nous a créés par Jésus-Christ. Il est notre Créateur et nous sommes responsables devant lui de nos actes. Deuxièmement, il est notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés à un grand prix.
Prendre soin de sa santé fait également partie de la bonne gestion de son corps. La santé ne dépend pas seulement de ce que l'on mange, mais aussi du repos que l'on prend et des exercices physiques qui nous maintiennent en forme. Il n'est nullement question de prendre des substances qui rendent dépendants ou qui font du mal.
Là aussi, un équilibre est nécessaire. La santé ne doit pas être une préoccupation en soi. elle devrait faire partie automatiquement de la vie chrétienne. Trop se préoccuper de sa santé est une forme d'idolâtrie qui empêche d'avoir avec Dieu une relation satisfaisante. La santé permet de servir Dieu, mais elle n'est pas une fin en soi. C'est une citation tirée d'un livre de Van Dolson et de Robert Splanger en anglais.
Et maintenant, si nous examinions la façon dont nous gérons notre santé, et pas seulement nos habitudes alimentaires, que pouvons-nous faire pour l'améliorer? Quels changements pouvons-nous faire et devons-nous faire?
Oui, il y a de quoi méditer chaque semaine et chaque journée. Et nous voici maintenant au mercredi 10 juin 2009, et là il s'agira...
des biens matériels.
L'argent joue un grand rôle dans notre vie et un rôle central dans la gestion de la vie chrétienne. La gestion chrétienne n'est pas seulement une question d'argent, mais l'argent en fait partie. Eh bien, lisons donc quelques textes à ce sujet. Et tout d'abord, dans le livre du Lévitique, chapitre 27, nous lirons le verset 30.
Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Prenons également le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 17 et 18.
Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Nous continuons avec Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9.
Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Le verset 10.
Apportez à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure.
Tout a été créé par Dieu, tout lui appartient. Il nous donne la force de travailler et de gagner notre vie. On entend parfois dire « c'est uniquement le résultat de mon dur labeur ». Il ne faut pas oublier cette vérité importante. Dieu seul permet de gagner de l'argent.
Il faut donner à Dieu la première place, qu'il s'agisse de nos biens, de nos actes ou de l'usage que nous faisons de l'argent. Avant toute dépense, assurons-nous que nous avons mis de côté dîmes et offrandes. Gérons ensuite le reste de manière responsable, en ayant toujours conscience que la gestion chrétienne concerne l'usage de toute somme reçue.
Dieu attend de son peuple que celui-ci lui retourne au moins 10% de sa richesse. C'était la règle dans l'Ancien Testament, principe qui n'a jamais été supprimé. À l'époque de l'Ancien Testament, les dîmes étaient confiées aux prêtres et utilisées pour financer les services du sanctuaire. De même, aujourd'hui, nos dîmes sont utilisées pour financer le grand mandat évangélique que Dieu a confié à son Église.
Plus nous donnons et plus nous recevons de bénédictions. Essayons, et nous verrons par nous-mêmes que ces paroles sont vraies. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35.
Il existe même un vieux dicton anglais qui nous dit « qu'il mette son argent là où est sa bouche ». Cela signifie qu'on peut toujours parler de sa foi. Si on n'est pas prêt à donner de l'argent, ce ne sont que vaines paroles. Pourquoi le fait de donner la dîme et les offrandes révèle-t-il de quel côté penche notre cœur ? Que révèle sur notre foi la façon dont nous donnons?
Eh oui, pas mal de questions sur ce sujet également. Et nous abordons maintenant la journée du jeudi 11 juin 2009. Et là, nous allons voir...
Tandis que nous attendons.
Les paraboles des talents et des mines comportent une dimension importante pour nous. Dans Matthieu, chapitre 25, le maître est parti faire un long voyage. De retour, il fait les comptes avec ses serviteurs. Dans Luc, chapitre 19, on nous dit qu'un homme de haute naissance est parti dans un pays lointain. Au cours de sa mission, il est devenu roi, puis il est rentré chez lui. C'est au verset 15 du chapitre 19 de l'évangile de Luc.
Il est évident que Jésus parlait de lui-même. Il voulait que ses disciples sachent qu'il s'en irait et qu'il s'écoulerait du temps avant son retour. Mais à son retour, il nous demandera de rendre compte de ce qu'il nous a confié. Qu'est-ce qui devrait caractériser la façon dont nous attendons le retour du Christ ? Je vous invite à lire avec Bernard l'évangile de Matthieu, chapitre 24, pour commencer les versets 42 et 44.
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous continuons avec les versets 45 et 46.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte.
Notre attente a un but. Il ne s'agit pas d'attendre sans rien faire, mais d'être des disciples engagés, des gestionnaires attentifs de tout ce qui nous a été confié. Nous devons être vigilants dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Nous devons aussi être appliqués, car il nous est demandé de travailler tout en attendant. Les deux choses doivent être associées. Le caractère chrétien s'en trouvera équilibré, harmonieux, normalement développé.
Notre devoir n'est pas de nous adonner entièrement à la méditation, à l'étude ou à la prière en négligeant les autres choses. Il ne s'agit pas non plus de nous agiter et de nous laisser absorber par le travail au détriment de la piété personnelle. Attendre, veiller et travailler sont trois attitudes qu'il faut associer entre elles. Romains 12:17 nous dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ».
Nous attendons que revienne Jésus, le propriétaire de toutes choses. Il sera bientôt de retour et voudra savoir ce que nous avons fait de nos talents, de notre temps, de nos forces physiques et de nos ressources matérielles. Nous ne devons en aucun cas nous effrayer que Jésus veuille constater les résultats de notre gestion fidèle.
L'accusation du serviteur qui, ayant enterré son talent et refusé de l'employer utilement, avait déclaré que le maître était un homme dur et désireux de moissonner là où il n'avait pas semé, était totalement fausse. Nous voyons bien que les serviteurs qui avaient été de fidèles gestionnaires ne partageaient pas cette vision négative. Ils ont été pleinement récompensés de tous les efforts qu'ils avaient mis dans la gestion de leur talent quand leur maître leur a dit « Entre dans la joie de ton maître. »
Ainsi s'achève cette journée du jeudi. Nous arrivons à la fin de cette semaine avec le vendredi 12 juin. Et pour aller plus loin, nous allons encore vous proposer quelques textes tirés du livre d'Ellen White dans le commentaire biblique adventiste.
Le Seigneur n'exigera pas des pauvres de donner ce qu'ils n'ont pas. Il n'exigera pas des malades les forces vives que leur corps affaibli ne possède pas. Que personne ne se lamente de ne pouvoir glorifier Dieu avec des talents qui ne leur ont pas été confiés. Mais si vous n'avez qu'un seul talent, utilisez-le à bon escient et il se multipliera. un talent que l'on enterre n'attire pas d'autres talents.
Comment comprendre la gestion chrétienne et la responsabilité envers Dieu dans le cadre du salut par la foi seule? Serons-nous sauvés parce que nous sommes de bons gestionnaires chrétiens? Ou notre gestion chrétienne révèle-t-elle notre foi? Et même si nous faisons des erreurs, pourquoi ne devons-nous pas abandonner et désespérer?
Pourquoi ce qu'on a appelé aux États-Unis l'évangile de la santé et de la richesse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle Dieu donne l'argent et la santé à celui qui vit dans la justice, est-il erroné? En quoi est-ce pervertir les vrais principes de la gestion chrétienne?
Que penser de la déclaration suivante? Les personnes les plus talentueuses sont inutiles si elles ne se mettent pas au service de Dieu. En résumé, la disponibilité est plus importante que le talent.
Que dire à un membre d'église qui, traversant une période financière difficile, déclare ne pas pouvoir donner de dîmes et encore moins d'offrandes?
Nous résumons cette semaine avec ces quelques lignes. Nous avons tous reçu un ou plusieurs talents. Des ressources nous ont été confiées. En tant que gestionnaires chrétiens, nous devons gérer ces ressources au mieux de nos capacités, en reconnaissant avec gratitude que tout ce qui est nôtre nous vient en réalité de Dieu. La gestion chrétienne ne devrait pas être une tâche difficile à accomplir, mais une façon joyeuse d'établir des priorités selon les domaines, dans tous les domaines de la vie. Ainsi s'achève cette semaine d'études.
Et nous vous disons à la semaine prochaine.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Jesus is coming.